devant la porte B de la maison de Radio France.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
France Inter.
La voie est libre.
Allez, embarquement immédiat pour là-bas si j'y suis. C'est avec Daniel Mermet, c'est maintenant.
Bonjour. À tous ceux qui font des raccourcis à la Barbier, à tous ceux qui pensent que le problème c'est l'immigré et pas le financier, à tous ceux qui pensent que seule une politique d'austérité est souhaitable parce que on peut pas faire autrement, il n'y a pas d'autre alternative. Bref, à tous ceux qui sont dans une paresse intellectuelle ou, comme dit Chomsky, je crois que c'est lui, dans une ignorance intentionnelle, à tous ceux-là, et ça fait du monde, eh ben j'attends le feu vert de là-bas si j'y suis pour savoir si oui ou non j'ai le droit de me faire tatouer le sexe. Si c'est le cas, je me fais tatouer une grosse botte. Et puis je vais aller vous botter le cul, moi.
Bonjour, je m'appelle Anna. Je suis maman de 3 enfants et je viens d'écouter l'émission d'aujourd'hui, dont Christine est amie. Et je suis éblouie de la capacité de la maman à rire tout le temps des blagues de Tammy et de Christine. Et je trouve que c'est une belle leçon pour moi et pour mes 3 enfants. Très belle émission et merci encore. À bientôt.
Merci pour cette belle après-midi avec Christine et Tammy. J'utilise le répondeur parce que franchement, ça me fait chier d'utiliser Gmail ou Yahoo. Vous avez même fait une émission pour expliquer qu'il fallait éviter de se faire prendre par ces grosses sociétés internationales, mondiales, ces grosses pieuvres. Et on peut discuter avec vous qu'avec ça. Merci et je vous engueule quand même. Ciao.
Bonjour, je m'appelle Christine, j'ai 47 ans et je viens d'entendre votre émission de mardi. Je suis très émue, j'ai cru reconnaître la voix de mon frère, Serge, qui était aussi infirme moteur cérébral, qui est décédé quand j'avais 12 ans. Moi-même, j'ai failli être infirme moteur cérébral, mais j'ai été exsanguinée. C'était en 65, première année des exsanguinations. Et voilà, tout ça m'a ému. Je vous remercie pour vos émissions. Faire découvrir aux gens, à tous vos auditeurs, comment derrière ces sons, des gens peuvent s'exprimer et essayer de vivre comme nous. Merci.
Salut les AMG, c'est Michel en Moselle. Bah, j'ai trouvé, Daniel, ton émission sur les transhumanistes et les robots, la robotisation de la vie, très intéressante. Je vis ça tous les jours au travail. Une usine où on vient d'installer un très grand transstocker pour stocker automatiquement 35 000 palettes. On se passe de caristes. Donc ici, j'ai remarqué qu'il n'y a aucune résistance. On se complaît à dire ici qu'on a licencié personne, mais en fait c'est tous les intérimaires qui étaient caristes, qui ont été virés au nom du productivisme et de cette belle machine qui remplace les humains. Cet investissement a été payé en partie par les collectivités qui payent les intérêts de nos prêts. Je trouve ça assez terrible. Et donc je voulais juste témoigner en disant que ce qui est marrant, c'est qu'on va toujours plus vers le productivisme, mais on ne parle plus de réduire le temps de travail. Donc je vois pas comment on peut sortir de la société de chômage de masse en ayant toujours plus de robots et en voulant encore augmenter le temps de travail. Moi je suis pour encore moins que les 35 heures, voilà, c'était juste mon témoignage. Allez, merci à vous, ciao.
Bonsoir Daniel, bonsoir à tous les auditeurs de là-bas si j'y suis. Je viens de regarder Au bonheur des riches, les 2 épisodes. Évidemment, c'est très édifiant. C'est fou comme ces gens ont absolument bonne conscience. Ils sont totalement inconscients de la portée de leurs actes. Je voulais remercier les Pinsons Charlot aussi, à qui on doit ça. Et je souhaite à tous les auditeurs une bonne cogitation. C'était Guy de Bormes-les-Mimosas.
Voilà, une bonne cogitation à tous et à toutes, chers AMG. Je vais prononcer un mot. Et on va voir ce que ça suscite dans vos esprits, les répliques qui vous viennent aux lèvres. Si je dis le mot « révolution ». Révolution. Voilà, et bien sur nos écrans, on voit que 47,3% des auditeurs ont pensé au mot « goulag ». 25% ont pensé à « bain de sang ». Et tout le reste a pensé à tyrannie. Voilà à quoi fait penser le mot révolution. Qui parle révolution a souvent les yeux tristes. Celui qui parle révolution, il est vu comme un ringard, dangereux, ou un rêveur définitif. Alors, bah, on n'en parle plus trop, hein, sauf pour désigner une nouvelle lessive ou une marque de grippe. Hein. L'époque, on le sait, et on le voit, et on le sent, et on le dit. L'époque était la résignation, à la soumission, à l'impuissance, au ressentiment et aux petits arrangements avec l'ordre des choses. Et les plus engagés d'entre nous se contentent de repeindre les barreaux de la cage en verre pour faire plaisir à ceux qui sont à l'intérieur, comme pour faire plaisir à ceux qui sont à l'extérieur, parce que quand même, en verre, c'est plus joli. C'est dire si le livre dont nous allons parler aujourd'hui, le livre d'Éric Hazan, qui vient de sortir, est complètement à contre-temps. Ce bouquin s'intitule « L'insurrection qui vient ». Ça, c'était le précédent. C'est pas « L'insurrection qui vient ». Ça, c'était celui de 2007. Vous vous souvenez peut-être « L'insurrection qui vient ». C'était signé d'un comité invisible. Vous vous souvenez ? Tarnac, la petite épicerie tapis dans l'ombre. Celui qui sort ces jours-ci, ses premières mesures révolutionnaires. Chez le même éditeur, c'est-à-dire Hazan lui-même, c'est-à-dire La Fabrique, et qui fait suite au précédent. Il s'agit de quoi cette fois-ci ? Eh bien, d'en finir avec les révolutions ratées. Et tout ça, ça nous oblige à regarder vers l'avenir. Et ça, c'est révolutionnaire, en soi, regarder vers l'avenir. L'avenir, pour la plupart d'entre nous, ne va pas plus loin que les soldes de samedi prochain, pour les plus heureux, et pour les autres, l'avenir, c'est le prochain rencard chez Pôle emploi. Mais, faut pas se plaindre, faut pas gueuler la bouche pleine, ailleurs, c'est bien pire, et avant, c'était pas mieux, et on est quand même en démocratie. On est quand même en démocratie et chacun est libre d'écouter ou non, là-bas si j'y suis, jusqu'à 16h, ou presque auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale, au 01 56 40 37 37.
Bonjour, à cause d'un problème de budget aux États-Unis sur la planète Terre, le robot sur la planète Mars ne collecte plus d'informations. C'est un peu délirant cette histoire. S'il y avait eu des astronautes, on aurait fait comment ?
Ça y est, le travail du dimanche, c'est reparti pour un tour. Je me demandais jusque-là pourquoi tant de gens avaient envie de faire leurs courses le dimanche chez Bip, Rama, au lieu de rester tranquille en famille, aller faire un pique-nique ou autre chose. Ben, j'ai la réponse. Quand vous allez en semaine chez Bip, Rama, acheter quelques clous, quelques vis, une perceuse, à la caisse, on vous donne des bons de réduction pour votre prochaine visite. Mais ces bons de réduction ne sont valables que le dimanche. Bravo, Bip, Rama.
Où y a-t-il quelque part un système démocratique qui soit pas capitaliste? Si on s'en tient à la définition, à l'étymologie, aux déclarations dans les constitutions que c'est le pouvoir du peuple, c'est évident que c'est pas vrai. Dans un pays comme le nôtre, quel est le pouvoir du peuple?
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Éric Hazan, première mesure révolutionnaire.
Flight number 2, arriving from...
Et c'est une folie à nulle autre seconde de vouloir se mêler, de corriger le monde. Voilà, je commence par Molière, le misanthrope, de vouloir se mêler, de corriger le monde. Eh bien, c'est ce que nous allons faire jusqu'à la fin de cette émission. Enfin, c'est ce que nous allons faire. C'est ce que veulent faire Éric Hazan et Camus. Éric Hazan et Camus qui signent un petit bouquin de 110 pages qui s'intitule « Première mesure révolutionnaire ». Qu'est-ce qu'on fait le lendemain matin ? On fait la révolution ce soir, mais qu'est-ce qu'on fait le lendemain matin ? Alors, on va revenir d'abord un petit peu en arrière, Éric Hazan, si vous voulez bien. On va rappeler que vous avez publié dans votre maison d'édition La Fabrique, il y a quelques années, en 2007 exactement, un ouvrage intitulé « L'insurrection qui vient », c'était en février 2007, et ce bouquin a eu un certain retentissement, un succès de librairie, on peut le dire, et il a été une pièce importante dans une affaire dont on se souvient, c'est l'affaire de Tarnac. Pour qu'une petite maison d'édition comme la vôtre, La Fabrique, vende autant d'exemplaires, c'est qu'il a fallu un événement extérieur. Et il faut que vous remerciez ici celle qui a été votre attachée de presse, en somme, et qui vous a valu ce succès, c'est-à-dire Madame Alliot-Marie.
Oui, elle a beaucoup fait pour ce livre.
Elle a beaucoup fait pour ce livre.
C'est indiscutable.
Indiscutable.
Elle et Alain Bauer ont vraiment assuré la promotion de ce livre de façon magistrale.
Alors, on va peut-être pas revenir sur cette affaire. Non. On va peut-être revenir sur le bouquin, quand même, L'insurrection qui vient, en quelques mots, parce que je pense qu'il y a un lien entre les deux.
Oui, incontestablement. Disons que L'insurrection qui vient, c'est essentiellement une analyse des conditions qui vont mener à une insurrection victorieuse. Et ce livre-là, au fond, c'est le chapitre d'après. C'est bon, l'insurrection a gagné. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter de se trouver embringué dans le cycle infernal des révolutions ratées?
Alors, c'est quand même assez extraordinaire d'avoir entre les mains, d'abord, un bouquin avec le mot révolution. Vous n'avez rien compris, mon pauvre Éric Hazan, c'est fini la révolution. La révolution, ça mène au goulag, ou bien c'est un mot qui est utilisé dans la publicité pour dire la révolution dans les machines.
Dans l'aspirateur.
Dans l'aspirateur, oui. Voilà, voilà. Quand même, vous vous êtes entêté avec ce mot révolution l'année dernière. Vous avez publié un bouquin important, une histoire de la Révolution française, on en avait parlé ici, vous êtes penché sur l'histoire de la Révolution française et vous êtes intéressé par l'histoire des révolutions et le déroulement des révolutions, pas seulement celle de 89, la nôtre, la française, mais les autres, 48, 70 et 68 aussi. Et puis ailleurs dans le monde, vous êtes penché sur les révolutions, leur évolution, pourquoi est-ce que la révolution mange presque toujours ses enfants. Vous venez de parler du cycle des révolutions ratées. Et là, vous dites, mais on va peut-être essayer de ne pas rater celle-là.
La prochaine.
Est-ce que les révolutions ont toutes la même mécanique?
Les révolutions ratées, en prenant comme point de départ février 1848 à Paris, et pour point d'arrivée 2011 en Égypte, ces révolutions ratées, curieusement, obéissent à peu près toutes à une sorte de schéma. Alors, il y a l'insurrection victorieuse, la révolution populaire. Immédiatement, un gouvernement provisoire autoproclamé se met en place. Mm-hmm. Et en général, les gens qui le composent, ce gouvernement, ne sont pas ceux qui ont lutté pour la chute de l'ancien régime. C'est des notables, autoproclamés toujours. Hein? Mm-hmm. Et cela, leur premier souci, c'est d'organiser au plus vite des élections. Ces élections qui vont aboutir à la réunion d'une assemblée constituante, qui va, elle, enclencher la réaction, la répression. Si vous prenez, par exemple, quelque chose qui n'est pas exactement une révolution, ce qui s'est passé à la chute du Second Empire le 4 septembre 1870. Hein, 4 septembre. Les Parisiens qui prennent tous les jours la rue du 4 septembre ne savent probablement pas de quoi il s'agit. Eh bien, ce jour-là, à la nouvelle du désastre de Sedan, de la honte de ce désastre, le peuple impose la République. Et immédiatement, un gouvernement se met en place dans la journée. Un gouvernement qui va prendre le titre de défense nationale, qui va assurer la défaite et la capitulation face aux Prussiens, qui va réunir une assemblée qui va siéger d'abord à Bordeaux puis à Versailles, les Versaillais, qui vont écraser la Commune de Paris et mettre en place la désastreuse Troisième République. Voilà, c'est ce schéma-là qu'on trouve tout le temps. Donc, ce que nous essayons de montrer dans ce livre, c'est comment éviter. Eh bien, il faut absolument créer l'irréversible dès le lendemain de l'insurrection.
Créer l'irréversible. Dans la description que vous faites, on aurait pu évoquer mai 68.
Bien sûr.
Où on a cette poussée extraordinaire dans notre pays, les plus grandes grèves de l'histoire française,
oui.
en 68, et puis ensuite on a
élection, chambre tout à fait à droite,
on braillait dans les rues élection piège à con pour ceux qui y croyaient encore, élection et puis réussite formidable, retour de l'ordre, retour à la normale et retour du pouvoir qui avait chancelé,
qui s'était même évaporé pendant un petit moment.
Aux portes de la Sorbonne, la première bataille, les premiers pavés, les premières grenades, la première barricade.
Les 403 sont renversés, la grève sauvage générale.
Dans l'atmosphère empuantie par les gaz lacrymogènes.
Les fortes finissent de brûler, les enragés ouvrent le bal. Il est 5 heures, Paris.
Les policiers continuent de ratisser le boulevard Saint-Michel.
C'est vert.
Ils s'engouffrent dans la rue Cujas. Ils ratissent vraiment un coup de main de matraque.
Attention, attention François, il y a un pavé.
C'est vert.
Des drapeaux rouges brandis, des drapeaux noirs.
Les blousons noirs sont à l'affût, lance-pierre contre lacrymogène.
C'est vraiment un spectacle assez extraordinaire.
Les flics tombent morts au coin des rues, nos petites filles deviennent des reines. Il est 5 heures, Paris.
On peut considérer que le seul rapport qu'il puisse avoir avec cette université, c'est de la casser.
Paris.
Pour la casser, il n'y a qu'une solution.
C'est vrai.
C'est descendre en marche.
La tour Eiffel, la choquée, l'arc de triomphe est renversée. La place Vendôme est confumée, le Panthéon s'est dissipé. Il est 5 heures, il est 5 heures, le nouveau monde s'éveille.
Mes résolutions. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas.
Alors, Éric Hazan, première mesure révolutionnaire, ce qu'on fera donc le lendemain matin. L'adversaire numéro un, c'est la démocratie capitaliste. Alors, dans démocratie capitaliste, capitalisme, d'accord, on est tous capitalistes, mais on est tous contre, très bien. Mais la démocratie, ah non! Vous n'allez pas toucher à la démocratie. On y tient, à notre démocratie. On s'est battu, nos ancêtres se sont battus pour la démocratie, et c'est ce que nous souhaitons à la terre entière. Rien n'est plus formidable pour nous quand dans un pays ensauvagé d'Afrique ou des Amériques, eh bien, il y a des élections. Aussitôt, on délègue nos meilleurs reporters pour aller décrire ces pauvres gens qui savent même pas mettre un bulletin dans une urne. Et on est réjouis. Voilà, enfin, ça y est. Ils ont la démocratie. Et on ne dit pas qu'on leur a apporté la démocratie, mais enfin, c'est ce qu'on pense. On pense que c'est vraiment très bien. Et vous, Hazan, vous n'êtes pas tout seul d'ailleurs. Il y a un certain Camo qui a collaboré à ce bouquin. Vous luttez contre ça. La démocratie capitaliste, pour vous, voilà l'ennemi.
Il y a deux façons de répondre à ça. La première, c'est de dire, où y a-t-il quelque part un système démocratique qui ne soit pas capitaliste ? Depuis la fin des démocraties populaires de fâcheuse mémoire. Où y a-t-il ? Est-ce que vous pouvez me citer un endroit où la démocratie ne soit pas capitaliste ? Si on prend, je ne sais pas...
Parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. Il faut que vous choisissiez, Éric Hazan, c'est la démocratie ou l'horreur, ou la dictature. Et on vous dira, si vous attaquez encore la démocratie, on vous dira, mais enfin écoutez, c'est pas parfait, mais enfin par rapport au reste...
Oui, c'est la fameuse phrase de Churchill. C'est le pire des systèmes à l'exclusion de tous les autres.
Et vous, comme intellectuel, comme éditeur, eh bien, contribuez à plus de démocratie, à défendre la démocratie. Or, vous vous dites, non, non, notre adversaire, c'est la démocratie capitaliste.
Ça a été un idéal à un certain moment, inventé par l'Occident, qu'il a ensuite répandu dans le reste du monde à coups de... avec des arguments divers... qui allait depuis l'organisation d'élections truquées jusqu'à la distribution de bombes à fragmentation. Ce système démocratique, si on s'en tient à la définition, à l'étymologie, aux déclarations dans les constitutions que c'est le pouvoir du peuple, c'est évident que c'est pas vrai. Dans un pays comme le nôtre, quel est le pouvoir du peuple ? Enfin bon, ça c'est presque une banalité, que le pouvoir n'appartient pas au peuple. Et cependant, on fait sans cesse l'éloge. Même les despotes les plus pourris n'ont pas d'autre choix que se proclamer démocrate. Il y a une espèce de consensus, une espèce d'aura autour de ce mot qui fait que c'est inévitable. Ce que nous disons dans ce livre, c'est que la démocratie comme pouvoir du peuple, ça n'existe nulle part aujourd'hui. Alors qu'on arrête de nous raconter des salades. Et deuxièmement, la démocratie parlementaire avec... tenue régulière d'élections pas truquées, comme c'est le cas ici en France et dans la plupart des pays occidentaux, cette démocratie parlementaire, elle est consubstantielle au capitalisme. Nulle part, elle n'existe sans le capitalisme. C'est pour ça que nous avons fait presque un seul mot, capitalisme démocratique. Mmh. Alain Badiou, il dit autre chose, il dit capitalo-parlementarisme. Ça exprime la même réalité.
Ajoutez à ça, c'est au moins ce que vous dites dans votre bouquin, que ce pouvoir politique élu que vous venez de décrire, est de toute façon lui-même dominé par les marchés financiers, par les multinationales. C'est-à-dire que le pouvoir que nous élisons n'a pas tellement le pouvoir.
C'est vrai. Et depuis la crise, ce qui était jusque-là, au fond, tenu un peu dans l'ombre, un peu masqué, aujourd'hui, ça éclate au grand jour. Les marchés contrôlent les gouvernements. Chez nous, quand on dit les marchés s'affolent, les marchés s'inquiètent, le gouvernement s'écrase. C'est-à-dire que, au fond, ce pouvoir qui était il y a encore une vingtaine d'années entre les mains d'une espèce de caste politicienne, elle lui échappe là. Elle lui échappe.
Il faudrait qu'on fasse un constat, selon vous. Où sommes-nous en ce moment? Dans quel monde sommes-nous? Dans quelle société? Dans quel pays sommes-nous?
Je pense que c'est un système qui est à bout, au bout du rouleau. Tout le monde a l'impression d'une grande atonie, d'une grande apathie. On dit, mais il ne se passe rien. Donc, tes histoires de révolution, me disent certains de mes amis, tu n'as pas les pieds sur terre, tu ne te rends pas compte de la réalité. Moi, je pense que... Si je vous avais dit, Daniel Mermet, il y a exactement 25 ans, le 1er octobre 1988, si je vous avais dit la RDA...
République démocratique allemande.
Eh bien, dans 6 mois, il n'y en a plus. Elle se sera évaporée. Il n'y aura pas eu un coup de fusil de tiré. Elle va tout simplement... Ce pouvoir va prendre ses petites affaires, laisser sur les clés sur la porte et disparaître. Vous m'auriez dit, Azan... Vous m'avez l'air fatigué.
Oui, un petit coup de fatigue.
Prenez quelques jours de vacances, ça ira beaucoup mieux. Et pourtant, ce pays, un des plus policiers du monde, puisqu'on disait qu'un Allemand de l'Est sur quatre faisait partie de la Stasi, de la police politique. Ce pays archi-policier, qui paraissait absolument bétonné, il l'était d'ailleurs, il était assez bétonné comme pays, eh bien, le pouvoir s'est évaporé. Et moi, je crois beaucoup que... Quand on dit insurrection, il ne faut pas le voir à la classique. Confrontation frontale entre l'armée de l'ordre et une insurrection, elle aussi armée. Je crois que ça, c'est du passé. C'est du passé. Je ne crois pas que ça se produira comme ça. Je crois que le système va être totalement paralysé et n'avoir d'autres ressources. Le pouvoir n'aura d'autres ressources que de, là aussi... prendre ses petites affaires, laisser les clés sur la porte et disparaître.
C'est par la suite que les historiens vont chercher des causes, des signes avant-coureurs. Mais vous rappelez ce que Camille Desmoulins disait quelques années après...
En
93, il disait, je cite, « En 1789, nous n'étions pas plus de 10 républicains ». C'est-à-dire que on dit « Ah oui, mais le XVIIIe siècle, les philosophes, et on explique, on raconte maintenant tout ce qui s'est passé avant cette révolution. » Mais on oublie de dire que personne ne l'a vu venir.
Personne.
Personne. Il y en a quand même d'autres. Alors celle-là, elle est énorme. Mais la révolution de... Enfin, la révolution, les événements, disons, de 68, c'était la même chose.
Oui.
Par la suite, on dit « Ah, mais moi, je me souviens, j'avais dit... » C'est faux. On se souvient du fameux éditorial du Monde.
« La France s'ennuie. »
« La France s'ennuie. »
Le seul qui l'avait vu venir, c'était Godard.
Oui, le fameux film de Godard, La Chinoise.
Et on voyait ce qui allait se passer. Et je me souviens très bien d'être sorti du cinéma en disant « Mais où est-ce qu'il avait vu tout ça ?» Et plus tard, ces gens-là qui étaient représentés dans ce film, eh ben, ils étaient dans la rue.
Mais t'es quand même d'accord avec moi, Francis, qu'il y a quelque chose qui va mal dans l'université française ?
Bien sûr.
La Chinoise, un film de Jean-Luc Godard.
Ça se voit suffisamment.
1967.
Et alors ?
Je suis bien d'accord que c'est même le grand problème, l'éducation.
Oui, oui, c'est un des très grands problèmes. Et puis ?
Bah justement, tu trouves pas qu'il faut tout reprendre à zéro ?
Oui, mais comment ?
Bien d'abord, fermer les universités, comme en Chine.
Tu vas fermer, toi, les universités ?
Mais si jamais les responsables sont incapables de les fermer, il faut bien. Oui, ben je les fermerai.
Et comment tu vas faire ?
Ben je sais pas, là justement j'ai une idée.
Tu as une idée ?
Parce que tu vois, ce qui me dégoûte justement, c'est que l'enseignement, c'est toujours le problème des classes. Enfin, la culture, c'est une culture de classe.
Je comprends très bien ce que tu dis. Mais ton idée ?
Ben fermer l'université.
Mais comment ?
Avec des bombes.
Avec des bombes. Tu vas jeter des bombes, toi ?
Écoute, à partir du moment où on tue des étudiants ou des professeurs, ils seront à la trouille, ils viendront plus. Et donc les universités seront fermées.
Mais à quoi ça sert d'aller tuer des gens si tu ne sais pas ce que tu feras après, si tu ne sais pas quelle...
Mais on le sait, Francis, ce qu'on va faire après.
Ah, alors, qu'est-ce que vous allez faire ? Moi, je ne crois pas du tout que vous le sachiez. Je crois que vous savez seulement que le système actuel vous est odieux. Et je crois que vous êtes terriblement impatient d'en finir avec lui.
Il n'est pas odieux, il est mauvais.
Oui,
et
bon.
Quant à ce qu'on fera après, ça, c'est pas mon travail.
Ça vous est égal.
Non, ça m'est pas égal. Moi, après, de nouveau, je continuerai à étudier la situation. J'arrêterai pas.
Le Vietnam brûlait, moi je hurle Mao, Mao. Johnson rigolait, moi je vole Mao, Mao. Le napalm coulait, moi je roule Mao, Mao. Les villes crèvent, moi je rêve Mao, Mao. Les putains crient, moi je ris Mao, Mao. Le riz est fou et moi je joue Mao.
On continue avec Eric Hazan, ce bouquin qui paraît première mesure révolutionnaire aux éditions de La Fabrique. Je voudrais qu'on reste encore sur cette démocratie capitaliste qui représente pour vous ce qu'il faut abattre. Il y a quand même une contestation dans les pays capitalistes, dans les systèmes capitalistes, d'ailleurs sur toute la planète. On conteste. Il y a des partis d'opposition, il y a même des partis radicaux qui s'opposent radicalement. On a quand même une liberté d'expression très grande et de critique de cette démocratie. Vous, ça vous suffit pas. Il n'y a pas d'arrangement.
Oui, les critiques du système aujourd'hui disent qu'on va l'améliorer, on va essayer de le rendre plus juste, mais c'est antinomique avec le principe même du capitalisme démocratique. C'est donc qui est fondé sur la précarité croissante et l'austérité. Je crois qu'essayer de le rendre plus juste, c'est lui demander de ne plus être lui-même. Les économistes critiquent. Ils disent, voilà, il y a une bonne économie, une économie saine qui est étouffée par la finance. Non, c'est la notion même d'économie qui est une vraie perversion. Qu'on considère l'économie comme une science exacte, c'est une perversion. Le jour où l'insurrection l'aura emportée, elle apparaîtra une science du même niveau que la chiromancie ou l'astrologie.
Alors, quand on dit révolution, Eric Hazan, on pense tout de suite violence, on pense tout de suite chaos, on pense tout de suite contre-révolution. C'est comme ça qu'on pense aujourd'hui, depuis une vingtaine ou une trentaine d'années. Ça n'a pas toujours été le cas, mais c'est quand même les clichés qui sont installés dans les esprits. Vous avez parlé d'évaporation du pouvoir, c'est-à-dire qu'il y a une insurrection. Vous allez me décrire d'abord à quoi ressemblerait cette insurrection et qu'est-ce qui la ferait naître.
Je pense en effet que l'insurrection qui vient ne sera pas de type classique, je l'ai déjà dit. Ce ne sera pas une confrontation frontale, directe, entre une insurrection armée contre l'armée du pouvoir en place. C'est pas possible aujourd'hui. Je veux dire, ce serait aller au massacre. Il faudrait trouver un autre mot que celui d'insurrection, d'ailleurs. Enfin, peut-être pas, mais insurrection, il faudrait lui enlever toutes ces couches de coups de fusil et de violence. Insurrection, ça peut vouloir dire blocage général du système. Blocage des flux, blocage de tout ce qui fait le fonctionnement du système pourri auquel nous sommes habitués. Je pense que le blocage total d'un tel système s'est déjà produit, par exemple, en 68. Et j'irai même plus loin, la Révolution française a commencé exactement comme ça. Parce que la prise de la Bastille, ça n'a jamais été qu'un événement symbolique, c'était pas très important, la Bastille. Mais dans les semaines qui ont suivi, tout le système qui était hérité de Richelieu, de Colbert, tout ce système extrêmement sophistiqué, rigide, s'est évaporé. Les intendants, qui étaient l'équivalent des préfets de région, eh bien, ils ont laissé la clé sous la porte, ils sont partis. Les parlements, qui étaient la base de l'ancien régime, les parlements se sont dissous, autodissous, ils sont partis à la campagne. Les municipalités, qui étaient héréditaires, vénales, ou dont les membres étaient directement nommés par le pouvoir, ces municipalités se sont défaites. Elles ont été remplacées immédiatement, dans les semaines qui ont suivi la prise de la Bastille, à mesure que la nouvelle gagnait le pays. Pacifiquement. La Révolution française a été dans tous ses débuts, une révolution extrêmement pacifique.
Dans ses débuts.
Oui. C'est vrai qu'ensuite, les choses ont tourné différemment. Mais enfin, jusqu'en 93, jusqu'à ce que la guerre menace l'existence même de la République, il n'y a pas eu de graves massacres.
Mais quelles sont les conditions de cette insurrection ? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que cette insurrection se produise ?
L'étincelle, peu importe. Au moment où la somme des gens, des femmes, des hommes, qui n'en peuvent plus, quand la masse critique est atteinte, l'étincelle peut être n'importe quoi. Regardez, par exemple, je prends toujours des exemples historiques, parce que ce sont des choses qu'on connaît, la manière dont a éclaté cette insurrection qui a été la Commune de Paris. Au moment où éclate la Commune de Paris, les partis politiques, les groupes, les internationaux, les blanquis, tout ça, c'est très très peu de choses. Et quand Thiers envoie l'armée récupérer les canons sur le haut de Montmartre, c'est l'étincelle et la Commune est proclamée et éclate d'une façon évidente, d'une façon tout à fait spontanée.
Oui, mais la répression.
Après.
La Commune. Oui.
Après.
100 jours.
Oui. La Commune, c'est un cas particulier. La Commune, il ne faut pas non plus l'idéaliser. La Commune a été gangrénée par le parlementarisme à l'intérieur d'elle-même.
Quand vous évoquez 68, vous évoquez cet élan extraordinaire, vous évoquez les fameuses grèves de 68, encore une fois, répétons-le, les plus grandes de l'histoire de notre pays. Et puis vous dites ensuite, ça s'est effondré à cause du vide théorique et programmatique. C'est-à-dire, on regarde ces deux mots, vide théorique et programmatique, on se dit, d'accord, ça veut donc dire que le niveau culturel, le niveau de projet politique était insuffisant, et puis il n'y avait pas de programme, c'est ça que vous voulez dire par là.
Il y avait des programmes dans les groupuscules, il y avait les Mao, il y avait les trotskistes, il y avait les anards, chacun avait son programme, mais en fait tout le monde a été pris de court. Personne ne s'attendait à cet écroulement du pouvoir gaulliste, cette absence du pouvoir gaulliste pendant une semaine. Personne ne s'attendait à ça. Personne n'était prêt. Donc, finalement, le livre que nous avons écrit avec Camus, il est exactement écrit pour ne pas se retrouver dans cette situation-là. Susciter un débat. Ce n'est pas un programme, notre livre. C'est un livre qui devrait, nous l'espérons, susciter des débats sur qu'est-ce qu'on fait après. Voilà. Comment on en vient à en finir avec ces deux pivots autour desquels tourne la société, d'un côté le travail, de l'autre l'argent, le tout étant réglé par l'économie. Comment en finir avec la centralité du travail ? Comment en finir avec la centralité de l'argent ? Comment éviter la reconstruction de l'État ?
Alors, on va essayer de répondre à ces questions que vous êtes en train de vous poser et que vous posez dans le bouquin. Le travail, qu'est-ce que vous en faites ? Vous dites de toute façon, il ne reviendra pas le travail, il est en train de partir, il ne reviendra pas.
Ouais, il faut en finir avec ces expressions horribles, marché du travail, il faut en finir avec la séparation de l'humanité en deux sous-catégories. D'une part, ceux qui ont un travail qui sont des êtres humains à part entière, de l'autre, ceux qui n'en ont pas et qui sont des gens diminués, des citoyens de deuxième zone. Il faut arriver à ce que on travaille ou qu'on ne travaille pas, on ait la possibilité de mener une existence décente, une existence digne de ce nom, du droit à l'existence. Et l'argent, l'autre pilier, il faut, croyons-nous, le pousser dans les marges de l'existence. Alors qu'aujourd'hui, c'est le centre, gagner sa vie. Non. Mais à partir du moment où, Daniel Mermet, vous n'avez pas à payer votre loyer, l'éducation de vos enfants, la santé, les loisirs, les transports, l'énergie, lorsque l'alimentation est retirée des griffes des multinationales qui nous font manger en Provence des tomates hollandaises et partout du poisson qui vient des lacs africains. Lorsque la gratuité sera massivement étendue, l'argent passe aux marges et devient quelque chose qui est nécessaire pour s'acheter des belles cravates. Probablement que les gens seront étonnés lorsque l'insurrection se sera produite.
Maman, on dirait qu'il y a du mouvement. Il y a du sourire à nos carreaux. Je savais pas qu'on était tant. Et tu m'as réveillé si tôt. C'est une marche de débraillés qui se défile le nez en l'air. Ça sifflote tout en fierté tout ce qu'ils ont aimé hier. Voilà les gens qui rythment en rire en se partageant chaque pas. Ils ont pris l'horizon en mire. En cadençant d'une, nous voilà. C'est beau, c'est du n'importe qui. Regarde-les lever le soleil en se fabriquant une vie. Vivement demain. Et pas pareil. À force d'attendre le grand soir, ils sont partis de bon matin avec ce qu'il leur restait d'espoir. Tout droit. Puisque c'est de là qu'on vient.
Je vois ça, si j'avais une image à donner, comme des pistes tracées dans une terra incognita.
Qu'est-ce que vous faites de l'État, Éric Hazan ?
Il faut tout faire pour que éviter la reconstruction de l'État au lendemain de l'insurrection. C'est-à-dire que les appareils d'État, il faut les dissoudre. L'appareil d'État, c'est les fonctionnaires, c'est l'armée, c'est la police, c'est l'administration pénitentiaire, c'est tout ça. Et le gouvernement, il a l'habitude de travailler dans des bureaux, avec des dossiers. Il faut l'empêcher de se reconstituer. Il faut fermer ces endroits. Il faut transformer les ministères en terrain de jeu pour les enfants et les mairies en crèches. Et ces magnifiques hôtels avec ces magnifiques jardins, ça doit revenir aux mains du peuple.
Est-ce que vous ne craignez pas, là, dans cette suppression de l'État, de rejoindre les libertariens ? Qui, eux, sont contre tout ça, qui sont pour la guerre de tous contre tous. Et quand on leur dit, vous savez, l'État, ça permet aussi de protéger les vulnérables, à condition que ça marche dans le sens que nous souhaitons, sur des valeurs qui sont les nôtres. Et en appliquant certaines lois qui existent, c'est quand même le moyen de protéger les faibles, de redistribuer, etc. Les libertariens nous disent non, on ne veut pas d'État, on veut chacun se débrouille, liberté totale. C'est un peu votre... vous vous sentez pas un peu...
Pas du tout, pas du tout.
Cousinage.
Non. La phrase « chacun se débrouille », c'est exactement l'inverse de ce que nous souhaitons. Nous souhaitons un nouveau mode de vie en commun. Il ne s'agit pas de renvoyer chacun à la misère de l'existence individuelle. Ça serait évidemment la guerre de tous contre tous, c'est quelque chose d'épouvantable. Pire que l'état dans lequel nous sommes, nous proposons de créer les conditions d'une vie où le bonheur commun, comme disait le premier article de la Constitution de 1793, le but de la société est le bonheur commun, et bien c'est ça, commun. Nous pensons que c'est aujourd'hui, avec la concurrence généralisée, que nous sommes plongés dans la lutte de tous contre tous. C'est le système actuel, le capitalisme démocratique, prône, défend la guerre de tous contre tous. Qu'est-ce que c'est la concurrence généralisée et...
Libre et non faussée.
Libre et non faussée, sinon la guerre de tous contre tous.
Vous dites dans votre bouquin, il faut s'organiser. Qu'est-ce que vous faites des organisations telles que les partis politiques, telles que les syndicats ? Parce que si on regarde des choses qui nous ont intéressés, comme le mouvement des indignés, par exemple, en Espagne, ou aux États-Unis, Occupy Wall Street, on se dit... Oui, c'est généreux, il y a un élan, il y a des bonnes idées, ça fait du bien. Mais le résultat, Occupy, voilà, ça s'est évaporé, là, pour le coup. Et les indignés espagnols, si je pense qu'à ces indignés-là, on ne voit pas très bien l'efficacité de ce mouvement, aussi généreux, aussi lucide soit-il, et aussi efficace, par endroit soit-il. Est-ce que cette absence d'organisation... voulu, parfois, revendiqué, n'est pas la cause de cette inefficacité ou relative inefficacité.
Je pense que ces mouvements de type Occupy, ou de type indigné, ils ont un grand intérêt qui est d'amener un sentiment politique, amener au sens général de l'intérêt commun, des gens qui, jusque-là, s'en foutaient. Mmh. Ce qu'on appelle des apolitiques, c'est-à-dire des gens qui disent « moi, je m'occupe pas de tout ça ». Eh bien, ils sont descendus dans la rue à cette occasion. Et... d'accord, ils sont rentrés chez eux. D'accord, ça n'a pas fait vaciller le pouvoir, qui en a bien vu d'autres, et qui d'ailleurs n'a pas vu ces mouvements-là d'un œil si mauvais que ça. Hein. Mm-hmm. Il les a pas encouragés, mais enfin, il les a, oui, considérés avec une sympathie amusée. Bien sûr qu'ils n'ont pas fait vaciller le pouvoir, mais dans la tête des gens, ça a changé quelque chose pour un assez grand nombre d'individus, de femmes, d'hommes, qui jusque-là ne s'intéressaient pas à tout ça, et qui soudain, cette aventure-là, cette expérience-là, a amené à comprendre la vraie nature du système dans lequel nous sommes imbibés.
Est-ce que là, on ne revient pas à ce que vous critiquez par ailleurs et ce que vous évoquiez il y a quelques instants, c'est-à-dire tous ces mouvements, encore une fois, généreux, critiques, contestataires, qui ne font que renforcer, au fond, cette démocratie capitaliste?
C'est vrai que la démocratie capitaliste a une grande force métabolisante de toute théorie ou pratique contestataire. C'est vrai, c'est vrai. Mais ce que nous disions il y a quelques minutes juste avant, à savoir, lorsque la masse critique des gens qui n'en peuvent plus aura atteint un certain point, aura atteint un certain seuil, eh bien ce jour-là, il n'y faudra plus qu'une étincelle, peu importe d'où elle viendra.
Votre bouquin, il aurait étonné personne au XIXe siècle. Non, non. Parmi les socialistes de l'utopie, parmi tous ceux qui, face à la révolution industrielle qui était en train de bouleverser le monde, bien sûr, reste là-dessus Marx, Engels, 48, le manifeste du Parti communiste. Mais il y a eu beaucoup d'autres auteurs qui se sont pris le chou, certains ont été oubliés, d'autres maintenant font partie d'anthologies plus ou moins charmantes. Mais enfin, il y a eu beaucoup de projets, d'agitation, avec des horizons, et puis comment y parvenir?
C'est vrai, mais je récuserai le terme d'utopique pour notre livre.
Je m'en doutais. J'attendais.
L'utopie, c'est sympathique, ça fait sourire, et ça ne porte pas à conséquence. Alors que nous pensons, dans ce livre, que nous sommes tout à fait réalistes. Je vois ça, si j'avais une image à donner, comme des pistes tracées dans une terra incognita. L'après-révolution, on n'en parle jamais, ce qui est d'ailleurs une des bonnes raisons pour qu'elle ne se produise pas.
Oui.
Parce que ça renforce les gens qui disent « Ouais, vous voulez tout foutre en l'air, mais pourquoi faire ? Ça va être encore pareil, on va encore revenir, après avoir versé du sang, etc. » Révolution, ça veut dire on revient à l'état de départ. Donc, ce manque d'un discours et d'un débat et d'une réflexion sur l'après-révolution, c'est un des phénomènes qui empêche la révolution.
Oui, enfin, on ne peut pas empêcher nos auditeurs, là, en ce moment, de se dire « Oui, c'est bien, c'est beau d'entendre tout ça, etc. » Mais enfin, quand même, il y a une peur du chaos. On sait assez bien comment la réaction sait utiliser le chaos. Foutre le bordel de façon à ce que les citoyens disent « Non, ben d'accord, c'était bien, on s'est bien amusé, c'était gai, c'était heureux, c'était joyeux, on a eu des belles journées ensoleillées, et des belles nuits aussi, mais voilà, maintenant c'est le bordel et il nous faut quelqu'un de fort. » Et ça, l'homme fort sait très bien se faire précéder par le chaos.
C'est sûr que c'est l'écueil. Mais on sous-estime toujours la capacité du peuple à se dépatouiller dans des situations exceptionnelles. Cela dit, il faut admettre un certain désordre. Mmh. Il ne faut pas penser que ça sera à la prussienne.
C'est-à-dire
La discipline et l'encadrement et la force d'une organisation qui va forcément se bureaucratiser et devenir inefficace et brutale.
Vous attendez à un joyeux bordel?
Bordel, peut-être pas, mais...
Mais joyeux.
Oui, joyeux, c'est sûr. C'est évident que c'est le critère de la réussite. C'est la joie, c'est le bonheur commun.
Le jour où Babylone tombera, ce sera le jour où je danserai Flamme de Myriam de Magdala avec quelque chose de Florence Ray. Je triche pas mais transgresse, je retranscris et transmets. Si les croisés nous transpercent, c'est pas des roses que je lancerai. Je cherche la paix au milieu de gladiateurs. Des fois je me dis que c'est comme chercher de l'humanité lorsqu'on t'attache au radiateur. Paradis des cœurs, coupé à la peur. J'ai pris la plume comme on prend l'épée pour défendre une liberté qu'il n'y a plus. Contre leur folie qui fabule, leurs crimes et leurs abus. On pète les plombs parce qu'on sature. Ça fait combien de siècles que ça dure? Putain, l'histoire de l'homme et son histoire. Il n'y a que lui qui puisse changer les dernières lettres de son grimoire. Passe de l'autre côté du miroir, viens voir la fille de l'intérieur. Ramène les cœurs à la même couleur que l'ivoire. Chemin du retour, la mémoire nous revient comme la victoire. Le monde s'écroule mais on ne craindra pas demain.
J'arrive parce qu'on du monde de demain. Des tripes venues lever les foules car le monde est fou. Un cri d'espoir qui vient de loin. Traversant les flammes, traversant la foudre. Issu d'une jeunesse qui en a plus.
J'arrive
rien à foutre.
Du monde de demain.
Des tripes venues lever les foules car le monde est fou.
Un cri d'espoir qui vient de loin.
Traversant les flammes, traversant la foudre. Issu d'une jeunesse qui en a plus rien à foutre.
Société bétail, le trop transforme tout en détail. Venin dans les médias, les fils du diable ont des médailles. Un mic en guise de pétard, on a tous perdu les pédales. Une ferrage, une tête de blédard sur la dalle ou sous les pléiades.
Éric Azan, on se souvient les révolutions arabes, tunisiennes et puis égyptiennes, mais surtout tunisiennes. À quel point on a fait l'éloge d'Internet, des réseaux sociaux, de Facebook comme des facteurs formidables de ces révolutions. Quelle place vous voyez pour ces moyens dans vos premières mesures révolutionnaires ?
Je crois qu'il y a deux choses. Il faut distinguer Internet, qui est évidemment un moyen de communication très rapide, très efficace entre des groupes dans un pays. Et les réseaux sociaux, je mettrais sociaux entre deux paires de guillemets. D'ailleurs, social, l'adjectif social, à lui seul, explique bien le caractère désastreux de ces réseaux, puisque tout ce qui est social, c'est destiné à faire avaler l'inacceptable. Cas social, plan social, partenaires sociaux, réseaux sociaux, c'est pareil. Leur but actuel, leur intérêt actuel, leur succès actuel, c'est que c'est le moyen d'échapper à l'extraordinaire isolement dans lequel nous plonge le capitalisme démocratique.
Ce qui nous a effrayés ces derniers mois, et puis de façon permanente, c'est une certaine poussée de l'extrême droite, voire même... On compare beaucoup notre époque avec les années 30, avec le fascisme des années 30. Et là aussi, vous critiquez l'antifascisme, les mouvements antifascistes.
Je ne parle pas de groupes d'autodéfense qui se créent dans un quartier pour nettoyer le quartier des fascistes dangereux. Ça, bien sûr que c'est nécessaire. En revanche, les mouvements où des intellectuels à une tribune dénoncent les dangers du fascisme... Ça, je crois que ça renforce le fascisme. Parce que le fascisme, il naît de quoi ? Il naît de la détestation de la pourriture du capitalisme démocratique. Et en se fondant uniquement sur l'antifascisme, on donne l'impression, aux gens qui ne savent pas très bien, qu'on défend cette pourriture du capitalisme démocratique. Donc c'est contre-productif. Nous pensons, nous l'écrivons dans ce livre, Camo et moi, que c'est... L'éveil fraternel de toutes les énergies, comme dit Rimbaud,
oui.
qui va balayer tout ça. Le fascisme doit être balayé par l'avancée et pas par la défensive.
Ce qui fait toujours peur quand on entend les révolutionnaires, c'est leur dogmatisme, qui n'est jamais affecté par la réalité. Hein. La réalité n'affecte pas le dogme. Et là, c'est curieux votre bouquin, parce que c'est ouvert. Tout le temps, vous dites, oh, ben, on va discuter. Et vous finissez en disant... Les jeux sont ouverts, rencontrons-nous, je vais dire les dernières lignes. Le temps presse, pressons le pas, mesurons notre puissance, rencontrons-nous. C'est un appel au débat, à la rencontre, c'est pas obéissez à nos grandes idées, nous qui sommes les éclaireurs, l'avant-garde, nous autres les intellectuels.
Dans les phrases qui précèdent ce que vous venez de lire, il est bien dit que nous ne sommes pas une avant-garde. Et notre rôle, c'est d'être des agents de liaison et non pas des dirigeants.
De la même manière, expliquer aux dominés pourquoi ils le sont et comment en sortir, ce n'est pas notre affaire à nous. La révolution qui vient n'aura pas d'avant-garde, seulement des agents de liaison qui travaillent à éveiller et à faire circuler les devenirs révolutionnaires. Pessimisme de la raison, disait Gramsci, et l'on a vu le résultat, dans un monde qui craque de toutes parts, le pessimisme ne fait que redoubler, la mort en cours. Donc, voilà, puisque le temps presse, pressons le pas, mesurons notre puissance, rencontrons-nous. Bravo, merci Éric Azan et Camo. Première mesure révolutionnaire, ça sort à la Fabrique. Et puis il y a un autre bouquin... d'Éric Cazan qui sort ces jours-ci, qui s'appelle La Barricade, histoire d'un objet révolutionnaire. C'est sur les barricades. Vous savez d'où ça vient, le mot barricade? Eh bien, de barriques, que jadis on remplissait de terre pour boucher les ruelles contre le dominant. Et puis, il y a toujours, évidemment, l'invention de Paris, du même Éric Cazan, au seuil, un très très beau bouquin. Et puis, son bouquin sur la Révolution, une histoire de la Révolution française, on l'avait reçu l'an passé. Sur ce bouquin, vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission là-bas, si j'y suis. Vous pouvez également écouter cette émission sur là-bas.org, là-bas.org, et puis aller faire un tour sur la page Facebook de l'émission. À la technique aujourd'hui, Serge Viguier et Gaël Braouzec. L'émission a été réalisée par Lucie Acoun et Franck Adhéraire, préparée avec Jonathan Duong. Stéphanie Fromentin, quant à elle, attend vos messages sur le répondeur de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37. On se retrouve demain à 15h pour là-bas, si j'y suis. Si tout se passe bien, ce sera avec l'équipe du monde diplomatique, autour notamment d'un sujet assez chaud. Vous verrez ça demain. Pour l'instant, je vous laisse avec Hervé Pochon pour son temps de pochon.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de pochon, mais ça ne va pas durer.
Et en fait, on a trouvé quelque chose de jubilatoire dans le fait de trouver où sont les choses, de savoir les situer, les relier entre elles par des sentiers. Et en fait, il y a un sentiment agréable, et qu'on se disait entre nous, c'est le sentiment géographique, quoi. Donc c'est une espèce de plaisir de savoir où sont les choses, quoi. On est moins dans le fantasme, quoi. On est moins dans ce truc de la jungle de béton. Mais ouais, mais cette jungle de béton, déjà, elle est localisée, elle est quelque part. Et puis, à côté, il y a le Fort de l'Est avec des jardins ouvriers. Puis là, il y a le canal, il y a le stade, il y a Saint-Denis, Saint-Denis grande ville, quoi, qui est à côté. Donc c'est ça un peu, ouais, ce qu'on appelait entre nous le sentiment géographique, quoi, ce plaisir de savoir où sont les choses, quoi.
Bonjour à tous et bienvenue en compagnie de Baptiste et Paul qui font la Révolution de Paris en 6 ou 9 jours selon les disponibilités des uns et des autres. Enfin, eux, ils font la version longue parce qu'ils veulent en faire un livre. Alors, ils sont facilement repérables parce qu'ils se baladent avec une carte hygiène en plein Paris. Non, en pleine banlieue, là, on est à l'angle de la rue de la Liberté et de l'avenue Stalingrad à Saint-Denis. Qu'est-ce que vous dites, madame ?
Vous êtes là parce que je pourrais écouter.
Mais c'est France Inter, madame.
Ah, France Inter. Oh, très bien alors.
Ça va, c'est une bonne radio.
Oui, ah, super, super.
Ah, bon. Et alors maintenant que c'est France Inter, vous voulez bien donner votre prénom ?
Non, toujours pas.
Bon, ben, au revoir, madame au chien. Vous pouvez donner le prénom de votre chien ?
Non, mais c'est n'importe quoi. Hein. C'est n'importe quoi.
Mais non, mais on a toujours un nom, c'est normal.
Ah ben, mais moi, je les baptise pas, moi.
Ah, vos chiens, vous les baptisez pas ?
Non.
Ah, ça, d'accord.
J'en ai qu'un, je le garde comme ça.
D'accord.
Anonyme.
Alors, quand vous lui dites, viens de coucher ou...
Ah, ben, je viens ici.
Viens ici, oui.
Voilà, c'est tout.
Allez, bonne journée.
À vous aussi.
Et Paul, vous gagnez votre vie comment ?
Ah, moi, je suis cartographe à l'agence d'urbanisme de Toulon.
Ouais. Pas du tout dans la région parisienne ?
Pas du tout, non. Et avant, j'étais à Bruxelles.
Cartographe, ça veut dire quoi ? Vous dessinez les cartes ?
Ouais, voilà. En fait, je suis urbaniste, mais là, mon pote, c'est cartographe. Donc, je dessine des cartes sur... ouais, je fais des SIG, ça s'appelle. C'est des systèmes d'information géographique. Je gère des bases de données géoréférencées, quoi. Donc, je peux faire des cartes de statistiques, des choses comme ça. Et moi, mon truc, c'est la planification. La planification urbaine, quoi.
C'est-à-dire la planification.
C'est regarder une ville et puis planifier un peu...
Le développement de la ville.
Ouais, c'est ça, voilà. Dire ici, il faudrait, une ligne de tram. Enfin, moi, je suis hyper jaloux des gens qui ont suivi le projet du tram T1, quoi. Parce que c'est juste magnifique, quoi. Ce tram, c'était en 92, qui fait Saint-Denis-Bobigny, enfin, les premiers tronçons. J'étais pas là pour voir avant, mais je suis quasiment sûr que ça a vraiment transformé la ville. Et Jean Rollin, il l'a confirmé. Quand on est passé vers l'île Saint-Denis, tout ça... Il dit, mais ça a vachement changé, c'est super. Voilà, ça, c'est des projets. J'aimerais vraiment suivre des trucs comme ça, quoi. Ouais.
L'écrivain Jean Rollin.
Vous vous attendez à ce que je dise quelque chose dans ce micro ?
Je sais pas, non, c'est la liberté totale ici. Qu'est-ce que vous faites sur le trottoir, monsieur ?
J'envoie des SMS.
Mais c'est par où le chemin, alors ?
Alors, je sais même plus, parce que là, on était surtout en train de vous chercher, quoi. Ça change l'ambiance depuis Saint-Denis, hein.
Ah, là, c'est beaucoup plus bourgeois, hein.
Et nous, on a vu le passage du 9-3 au 9-5, et tout d'un coup, hop, il y avait des petits champs, des petits cottages. C'était... On est passé, pour reprendre, de l'urbain au périurbain.
Le truc le plus frappant, c'est que surtout, on n'entend plus les coups de feu. Dès qu'on sort. Oh, les clichés. Alors là, on a passé.
On a fait tout
on
ça.
On n'entend plus les échos ça. Lointains de la Kalachnikov.
On n'est pas à Marseille. Là,
à Marseille, j'ai jamais entendu un coup de feu d'ailleurs.
Non, pas non plus.
À part, mais quand j'allume la télé, j'en entends plein.
Mais vous avez fait quoi ce matin?
Alors, Saint-Denis, Enghien. En passant par Villetaneuse et Montmagny et Deuil.
Et, justement, d'où vient le nom de Deuil-la-Barre?
Parce que ça, pas, mais juste itinéraire Paul-Hervé-Lavessière, 4 étoiles. Là, parce qu'on a des étoiles aux itinéraires,
ouais.
Là, c'est du 4 étoiles.
Ah oui?
Ah ouais, ouais.
Pourquoi c'est du 4 beau. Étoiles
bah, hyper varié, très agréable. On a vu 5 ou 6 types de formes urbaines très très différents. Oui. Du vieux pavillonnaire, du nouveau pavillonnaire, du logement social super beau, des belles passerelles, du rurbain, enfin franchement super beau.
Quel est votre plaisir dans la marche en ville?
Ben aujourd'hui, aucun, parce que j'ai une épine dans le pied. Généralement, ben je ne sais pas. Enfin, j'ai toujours bien aimé ça. Quoi. J'ai toujours bien aimé marcher, de toute façon. Pas nécessairement en ville. Mais j'ai une prédilection pour... J'aime bien, comme il le disait, là, j'ai repassé par des univers, des biotopes extrêmement différents, bon, comme on peut le faire, en effet, dans cet itinéraire au nord de Paris. Même si moi, personnellement, j'ai une prédilection pour les friches, et spécifiquement pour les friches portuaires. Là, ça, c'est ça, ma délectation, c'est les friches portuaires.
Vous pouvez savoir, Deuil-la-Barre, vous savez d'où vient le nom, Paul?
Pas du tout. Non, je sais pas. Non, on n'a pas encore acheté le guide bleu, là, il est en livraison, mais on l'a
quand
pas
même, c'est quand même un nom, là, en marchant, je voyais ça, Deuil-la-Barre.
J'ai dû vérifier ça 50 fois et l'oublier 50 fois. Ah. Je pense pas que ça ait à voir avec le deuil.
Juste à côté, Saint-Denis s'appelait autrefois, comme le rappelait Paul, Saint-Denis-Montjoie. Donc je propose qu'on rétablisse le nom complet de Saint-Denis-Montjoie, qui a quand même une autre gueule.
Bon, ben, alors si on veut savoir plus, c'est pas compliqué. La révolution de Paris chez Wild Project, bientôt. Et Jean Rollin, c'est Hormuz chez POL. Allez, bonne marche.
Un temps de cochon, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain.
Vous avez dit cochon?
Oui. J'ai dit cochon.
Parce que vivre l'hôpital, c'est d'abord vivre. La Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France a créé plus de vie pour apporter plus de vie aux personnes âgées hospitalisées.
Parler à quelqu'un d'autre que l'infirmière, recevoir sa famille ailleurs que dans sa chambre, ou tout simplement sortir. Quand on est âgé et à l'hôpital, la différence entre la vie et la survie tient souvent à des choses simples.
Pour plus de vie à l'hôpital,
donnons à plus de vie. Envoyez vos dons à plus de vie, 13 rue Scipion, 75 005 Paris, ou sur plusdevie.fr.
Vous êtes bien à l'écoute de France Inter, il est 16h. Le retour des informations avec Laetitia Gaillet, bonjour.
Bonjour, Manuel Valls a toute ma confiance. Lors des questions d'actualité à l'Assemblée cet après-midi, Jean-Marc Ayrault a porté son soutien au ministre de l'Intérieur après la polémique sur les Roms. Sa tâche est difficile, a dit le chef du gouvernement. Assurer la mission pour la sécurité des Français quand on sait la situation que nous avons trouvée, cela demande, dit-il, de la ténacité. Ce matin, en Conseil des ministres, François Hollande, jusqu'ici silencieux, a lui aussi mis un terme à la polémique entre Manuel Valls et Cécile Duflot. Il a appelé les deux ministres à plus de collégialité et de solidarité. C'est la dernière fois, même dit François Hollande, qui dans le même temps a demandé à Jean-Marc Ayrault d'assurer encore davantage la coordination du travail et de l'expression du gouvernement. Si elle devait se prolonger, la paralysie budgétaire serait un risque pour les États-Unis et pour le monde. L'inquiétude est signée Mario Draghi cet après-midi. Le président de la Banque Centrale Européenne y met toutefois un bémol. À l'heure actuelle, nous n'avons pas cette impression. Il n'empêche, le shutdown américain, comme on l'appelle, deuxième jour aujourd'hui, fait réagir aussi en France. Pour Pierre Moscovici, le ministre des Finances, le blocage budgétaire américain qui a mis au chômage technique 800 000 fonctionnaires pourrait avoir un impact négatif sur la reprise économique qui se dessine en France. Chaque jour de blocage conduit, dit-il, à une perte financière importante pour les États-Unis et donc des conséquences pour les partenaires. Les deux CRS qui ont recouvert un radar devant les caméras de TF1 pourraient être suspendus. Le conseil de discipline de la police qui a étudié leur cas aujourd'hui a réclamé une suspension de 2 mois de leur fonction. C'est maintenant au ministère de l'Intérieur de trancher. 13 personnes s'estimant victimes de contrôles au faciès ont été déboutées aujourd'hui de leur action contre l'État et le ministère de l'Intérieur. Il s'agissait d'étudiants et de salariés noirs ou arabes. Ils voulaient dénoncer une pratique discriminatoire et réclamer chacun 10 000 euros de dommages et intérêts. Le tribunal de grande instance de Paris a estimé qu'ils contestaient en fait la loi elle-même. Du coup, il ne peut statuer sur une éventuelle responsabilité de l'État. Les familles des victimes de l'attentat de la rue Copernic en 1980 à Paris se sont réunies aujourd'hui sur les lieux de l'explosion. Elles ont voulu afficher leur détermination. Elles attendent en fait avec impatience la décision de la Cour d'appel de l'Ontario début novembre qui doit décider donc de l'extradition ou non d'Hassan Diab. Il est soupçonné d'avoir posé la bombe ce 3 octobre 1980. 4 personnes ont été tuées dans l'attentat et une cinquantaine d'autres blessées. 35 000 exemplaires numériques et papiers diffusés chaque jour. L'opinion se porte bien. Le Nouveau Quotidien qui publiera demain son 100e numéro se félicite aujourd'hui de ses résultats. La direction de l'opinion assure même avoir dépassé ses objectifs en matière publicitaire. Enfin, c'est fait. Lance Armstrong a bien rendu la médaille de bronze qu'il avait décrochée aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000. Le coureur cycliste américain déchu de ses titres pour cause de dopage a renvoyé sa médaille le 12 septembre dernier, dit-on au CIO. Le Comité international olympique ne prévoit pas de la réattribuer. Vous écoutez France Inter, il est toujours 16h03.
Tous les samedis à partir de 20h, le grand rendez-vous live de France Inter, présenté par Vali.
Cette semaine dans Night Me Do au studio Charles Trenet, un déluge d'émotions avec Bertrand Belin.
Un déluge pour toi, un déluge pour moi.
La soul psychédélique de Joseph Arthur. Et la pop fine des Coming Soon.
Pour assister à l'enregistrement de l'émission, rendez-vous ce soir à 18h30 devant la porte B de la Maison de Radio France ou réservez vos places sur franceinter.fr. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
France Inter.
La voix est libre.
Bonjour Frédéric Lodéon, c'est à vous.
Merci Laetitia Gaillet, on vous retrouve à 17h.
À tout à l'heure.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. J'ai le très grand plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Marie Blanchard, qui est directeur du Wagner Geneva Festival, le Festival Wagner de Genève. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour.
Donc vous avez fait des études de lettres et d'histoire à la Sorbonne, tout simplement, Paris 4 Sorbonne. Vous avez rejoint l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, vous avez développé des produits éditoriaux là, et puis ensuite vous avez monté votre propre maison d'édition, Parution, ensuite vous avez travaillé au Châtelet et vous avez coédité la revue Musique. Et vous avez rejoint l'équipe du Théâtre du Châtelet en tant que conseiller artistique avant d'être nommé administrateur général de l'Opéra de Paris-Bastille. Ensuite, vous êtes à Nancy, l'Opéra de Nancy et de Lorraine, et puis au Grand Théâtre de Genève. Et maintenant, vous vous occupez de ce festival Wagner. Et c'est formidable, c'est un très beau festival avec beaucoup de diversité. Il n'y a pas que la musique précisément.
Non, c'était justement l'un des défis que nous avions. Genève, c'est une ville où la musique tient grande place. Ah oui. Il y a un opéra, le Grand Théâtre de Genève. Et ce festival n'avait de sens que si on était capable d'apporter des points de vue complémentaires sur Wagner. Et on a choisi, au fond, de travailler, on a pris pour fil rouge le thème des influences. Les influences subies par Wagner, bien sûr, qui ont fait Wagner, et puis les influences qu'il va exercer puissamment et qu'il continue d'exercer encore aujourd'hui sur des musiciens, mais pas seulement des musiciens, sur des plasticiens, sur des gens de théâtre, sur des gens de cinéma.
Alors, on a commencé ce festival avec un très beau récital. C'était les Wesendonck-Lieder. On sait que Wagner a été amoureux en Suisse justement de Madame Mathilde Wesendonck et il a écrit des Lieder, des mélodies, donc sur ses poèmes à elle. Ils sont magnifiques et ça a été donné par Anne Schwann-Wilms, qui est la grande wagnérienne qui, on va pas dire qu'elle monte, elle est déjà au sommet, hein, ça a été très beau, il paraît.
Pour nous, ça a été un grand honneur, une grande joie, parce qu'elle fait partie de ces artistes trop rares, qui prennent leur temps, qui, au fond, aujourd'hui, a décidé de revenir à Wagner, en ayant, pendant quelques années, choisi de passer par Strauss, et elle dit souvent que son plus grand talent, c'est de savoir refuser. C'est une leçon de sagesse.
C'est difficile à notre époque où tout se précipite. Eh bien, on va l'entendre, Anne Schwanewilms, dans un extrait de La prière d'Elsa de Lohengrin de Richard Wagner, bien sûr. Thank you.